tambours fatigués ne battent plus que l'arrivée d'une autre guerre, d'un autre amour. Nos fragiles orbites semblent rentes, il paraît que l'océan chante à nos amours.
Sometimes 10 ans avec Jérémy Rambeau en différé sur Radio Pays Varonnais depuis la médiathèque de Charavine. Alors on a eu un temps un peu décousu en off, que nos auditeurs découvriront ou pas, ça sera les grandes limbes du mystère et des inconnus. On va retourner au présent, on s'est arrêté à la vingtaine. Alors peut-être qu'il y a un petit décalage spatio-temporel entre temps, tu vas pouvoir nous le dire ou pas. En tout cas, on s'est raccroché sur le temps off à la fois au présent et au passé, et autour d'un temps suspendu, on l'évoquait aussi en introduction avant de démarrer. Et c'est vrai que dès qu'on sort les guitares, on se retrouve tour à tour au bord de la plage, dans l'enfance.
Avec les Beach Boys, par exemple.
Ouais, dans plein d'endroits, la guitare, elle a aussi cette vertu de nous transposer dans le temps. On voit plein d'imaginaires.
Et alors, il faut pas oublier que c'est un aimant à filles, la guitare. Quand on est jeune, c'est très très bien. On est au collège...
C'est un des arguments aussi, la guitare.
Des fois, je le dis à des élèves, à des collégiens pour rigoler. Parce que c'est vrai que dans l'adolescence, c'est une partie de notre vie qui n'est pas très agréable et qui est parfois très difficile à passer. On n'est pas bien dans son corps, et etc. Et outre fait cet argument... C'est un moment où on tend à la différenciation de ses parents. Hein, on va aller dans le sens opposé, etc. Et c'est vrai que parfois... Alors soit les parents font déjà de la musique, ils puissent choisir un instrument différent, soit c'est carrément faire de la musique parce que les parents n'en font pas. Et du coup, ça permet de se démarquer, quoi, et de se faire sa propre identité.
Alors l'identité, quand on passe du coup la vingtaine, comment elle se construit autour de la musique ou pas? Est-ce que là aussi, c'est une histoire de rencontre, de groupes qui se font, se défont?
À la base, moi, j'avais fait une formation dans le commerce. Donc, j'avais fait un bac pro commerce. J'adorais travailler en magasin. Et du coup, j'ai débarqué à Grenoble et j'ai très rapidement trouvé des petits boulots dans des magasins, etc. J'étais spécialisé dans le jouet. Donc on était encore dans le jeu, hein. Le jeu, le jouet et la puériculture, donc tout ce qui touchait à la petite enfance, etc. quoi. Et en fait, au bout d'un moment, en fait, moi, c'est le côté faire de l'argent qui ne me plaisait pas. Moi, ce que j'aimais passer, j'aimais passer du temps avec les clients. Et je m'en souviens, un jour, j'étais dans le magasin et j'avais passé un peu trop de temps avec un client qui était aveugle. Et ma patronne m'avait dit qu'il fallait pas passer autant de temps, qu'il y avait d'autres clients, etc. Et puis ce jour-là, je me suis dit que j'allais poser ma démission et que j'allais arrêter le commerce. Et du coup, je me suis orienté dans le social. Voilà. Donc mon père est éducateur, mon frère aussi. Donc j'ai commencé à faire, c'était en 2006, à faire des remplacements dans le handicap, dans des structures au début très compliquées avec des personnes très dépendantes. Mais ça m'a très 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 rapidement très plu et du coup j'ai fait une formation d'éducateur spécialisé à Échirol et après je me suis retrouvé dans une structure pendant, j'y suis resté 10 ans hein, quand même hein, avec des personnes handicapées handicapées mentales, déficientes intellectuelles, et c'était en service de jour, donc il fallait faire des activités, et moi du coup j'ai monté un groupe de rock. C'était un autiste qui chantait. Il y avait, je m'en souviens, à ma droite, une dame qui s'appelait Nicoletta et qui tapait du tambourin et qui faisait des crises d'épilepsie toutes les minutes. Donc, en fait, on lui avait installé un matelas derrière elle. À chaque fois, elle tombait. Donc, elle tombait sur un matelas. Et en fait, ce projet-là a commencé à devenir sérieux. On a pu avoir des subventions, acheter du matériel, une sono, une batterie. Et on s'appelait Bétadine. Voilà, c'est eux qui ont trouvé le nom, donc de la musique pour soigner et se soigner. C'était un gros groupe, on était 8 en tout, 2 éducateurs et 7 personnes en situation de handicap. Et on a fait toute une setlist, hein, on avait une vingtaine de chansons. Et après, du coup, on s'est mis à faire la tournée de toutes les structures de l'Isère. Donc on avait notre camion, hein, notre matos. Et puis, en plus, on était rémunérés, hein, donc on rachetait du matériel, on leur payait des restos, comme un vrai groupe, quoi, c'était marrant. Et j'y suis repassé sur cette structure, hein, j'y suis plus depuis très longtemps, parce qu'après, j'ai changé de public. Et j'ai retrouvé le chanteur, hein, les professionnels m'ont dit qu'il en parlait tout le temps, ce groupe, le chanteur qui était autiste. Hein, Il chantait sur la pointe des pieds et il était très très bon chanteur. Mais c'était énorme parce qu'en fait les professionnels ne le savaient pas jusqu'à qu'il commence à chanter avec nous. Et voilà, on se saisissait de ce qu'il pouvait apporter dans le groupe. Et puis le groupe s'est agrandi, agrandi. Et puis voilà, on était 7-8 à la fin. Il y en avait un, je m'en souviens, Emmanuel, il balançait que des gros mots en fait. C'était voilà, syndrome de la Tourette. Et ben on l'avait mis au rap. Donc on avait une chanson en rap et il gueulait plein de gros mots. Mais c'était génial quoi. Ça ressemblait à rien d'autre. Voilà. C'est de l'art brut.
Alors, on entend quand même que ce soit dans l'expérience de l'enfance, de l'adolescence, cette vie d'adulte, le souci d'être tourné vers les autres. La musique, c'est l'exercice d'être tourné vers soi, c'est l'introspection, c'est le doute par moment, les difficultés à prendre les cordes en main, à se frotter aux cordes. On l'a entendu tout à l'heure en off aussi. C'est un exercice qui n'est pas toujours simple, mais c'est aussi l'exercice de se mettre en danger face aux autres et d'être tourné dans une articulation entre soi et les autres.
Oui.
C'est un souci important pour toi, enfin, c'est une problématique qui te suit, qui t'est chère?
Oui, en fait, je vais toujours aller là où ça me semble moins confortable. Parce que je sais que c'est là qu'il va se passer quelque chose et qu'il va y avoir une expérience qui va se créer, quoi. C'est pas dans la routine et dans la facilité que. Et déjà, c'est ce que je dis aussi aux élèves, hein, c'est pas évident de travailler chez soi, d'avoir la volonté de prendre son instrument. Donc je donne des petits conseils, il faut l'avoir à portée de main, il ne faut pas qu'il soit rangé dans une housse, sous le lit par exemple. Voilà, il faut l'avoir toujours dans la ligne de mire, et puis il faut faire en sorte que ça devienne un peu son ami, son instrument. Parce que ça va être... Pour moi, c'est une expression de l'âme, la musique, quand on joue d'un instrument. Donc en fait, ça va servir de catharsis pour exprimer quelque chose.
Une expression, un prolongement, la guitare, on la porte aussi sur soi?
Non, parce que c'est pas un fardeau.
Ok.
c'est un compagnon. Et j'ai, en parlant de mise en danger, l'année dernière, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que ce dont j'ai toujours eu peur? Et je me suis dit, par exemple, jouer dans la rue, tout seul avec ma guitare et à faire la manche. Voilà. À pas faire la manche pour faire de l'argent, hein, ou pas faire un pied de nez aux gens qui sont pauvres, etc. C'est pour libérer de l'art et puis voir et puis pouvoir me payer un sandwich avec cet argent-là.
Exercice ô combien difficile, il faut capter, il faut faire que les gens s'arrêtent.
Ouais, et puis déjà on est très seul, on n'est pas dans un groupe, on n'est pas amplifié, donc on est vraiment dans de l'art de rue, hein. On n'a que notre voix et notre guitare qui, dans une rue, ne sonne pas beaucoup. Elle se diffuse dans l'air, le son. Donc, il faut trouver des endroits un peu stratégiques. Donc, je suis allé à Grenoble un jour, mais ça a été tout un cheminement. Voilà, c'était un cheminement intérieur et je savais où j'allais me garer, que j'allais prendre le tram avec ma guitare, que j'allais m'installer dans tel ou tel endroit, que j'allais en changer. Et j'avais un petit peu, je m'étais un peu dit, bon, en face de tel immeuble, peut-être que le son, il va un peu réverber, ça sera pas mal. Et du coup, la première fois, je suis allé à Grenoble et c'était, en fait, ça a été super parce que il y a des gens qui sont venus me voir. Alors, pas beaucoup de Français, beaucoup d'étrangers, des touristes qui sont venus me voir et discuter avec moi, mettre une pièce parce qu'ils reconnaissaient la chanson que je venais de jouer. du coup, j'ai renouvelé cette expérience sur un marché dans le sud pendant mes vacances et à Lyon. Où j'ai vu Mélenchon passer pendant que je jouais Hexagone. C'était rigolo.
Et donc, dans ces allers-retours entre Échirolles, Grenoble et désormais Le Pin, qu'est-ce qui se passe entre cette période? Il y a une volonté de... Comment tu arrives au Pin, finalement?
Déjà, il y a eu deux enfants. J'ai eu deux enfants. En plus, j'ai toujours été très, très attiré par l'eau. Il faut savoir que je me baigne dans le lac toute l'année et sans combinaison. J'adore l'immersion, voilà, et j'adore nager. Donc pour moi, vivre, que ce soit au bord de la mer ou au bord d'un lac, c'était aussi un rêve de gosse. Et puis, Paladru, ça a été, enfin, je venais déjà quand j'habitais Grenoble, mais ça a été le coup de foudre, hein. J'ai adoré, puis j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les... non, parce que ça, je l'ai découvert après. J'allais dire la philosophie un petit peu. Il y a une philosophie quand même autour du lac.
Comment tu la décrirais?
Alors, je vais me répéter pour ceux qui ont déjà entendu ça, mais dans un village, il y a le bouche à oreille, il y a une ambiance dans un village, et il y a quelque chose qui tourne en rond. Pas dans le côté péjoratif de la chose, hein, mais il y a quelque chose qui tourne en rond dans la communication, comme un rond-point. Et en fait, dans des villages autour d'un lac, ben, en fait, c'est tous les villages qui tournent en rond autour d'un lac. Et je ressens pas d'animosité entre deux villages ou de concurrence, ou alors c'est la bonne franquette, quoi. Et du coup, il y a une notion, moi je trouve, de respect, et notamment vis-à-vis des plus anciens. Il y a de l'entraide, et puis il y a en fait, autour des. Enfin, moi, je vais régulièrement faire mes achats à Épicé Nous. C'est ma voisine qui tient Épicé Nous. J'ai un copain qui est agent immobilier. Donc, enfin, si j'ai si je connais un élève qui vend sa maison, ça va passer comme ça. En fait, tout est. Voilà. Il y a Valérie qui a joué de la guitare avec nous tout à l'heure, qui a le salon de coiffure à Charavine, là. Et du coup, en fait, même tous les élèves, en fait, ils ont. Donc, du coup, j'en reviens à l'école de musique, mais ils ont tous. Ils ont tous un métier, enfin, je veux dire, ils ont tous des compétences, ils ont tous leurs caractéristiques et leur individualité. Du coup, qui fait que dans le partage, il y a vraiment quelque chose de complémentaire et de très riche.
Je peux que approuver ce que tu dis. Moi, je reste toujours bouche bée pour avoir circulé dans beaucoup de villes en France, et
Ouais.
puis dans une quinzaine de lieux. Je suis toujours autant agréablement surpris de voir les enfants qui disent bonjour avec le grand sourire et qui restent sur le cul si on a le malheur de ne pas leur répondre bonjour.
Ouais.
C'est élémentaire, mais c'est perdu.
Hmm.
Et l'autre point que tu décris, que je ressens aussi, c'est cette capacité à banaliser l'extraordinaire. Il y a énormément de gens qui font des choses extraordinaires et qui sont, c'est normal, c'est une
Qui
humilité.
reste humble.
Ouais.
C'est vrai.
Et ça tient pour peu, pour beaucoup, ce que tu décris du respect intergénérationnel et cette capacité à se dire bonjour et à se regarder en respectant chacun dans sa différence.
Oui.
C'est vrai que c'est très touchant et c'est un écosystème dans lequel on baigne au sens premier et second et dans lequel on oublie la chance au quotidien de vivre tout ça.
Et je
Merci.
pense qu'il y a sans doute une réelle histoire avec les origines du lac, les origines des populations qui a eu dans nos générations d'avant, les moines chartreux. Voilà, il y a eu tout un.
Je crois qu'il y a plus largement aussi au sein du département, tu évoquais la présence des lacs et à Gap, il y a aussi ça de commun, c'est la présence du lac de Serre-Panson et des montagnes qui remettent aussi chacun à sa place et des aléas des saisons.
Oui, alors après la particularité des Hautes-Alpes, il y a un climat qui est exceptionnel, 300 jours de soleil par an, hein, ville numéro 1 en France classée où il fait bon vivre, par le magazine Le Point. Néanmoins, relationnellement, c'est très compliqué, Gap. Les commerçants, ils n'ont pas envie de bosser. Alors attention, j'espère qu'il n'y a pas des Gapençais commerçants qui écoutent.
Non, mais est-ce qu'on peut noter quand même ce qu'il y a de commun,
En
pardon?
fait, on a l'impression à Gap, mais moi je le dis parce que je le dis sans souci parce que j'en viens. Et Gap, en fait, quand on grandit à Gap, on n'en sort pas. C'est très rare. Ou alors, en tout cas, on revient. On revient pour dès qu'on a un enfant, pour la sécurité. C'est sécurisant, ces montagnes. Par contre, on n'aime pas les touristes à Gap. Les Marseillais, on les déteste. Ils sont à 1 h 30. Pourtant, ils font vivre les stations, etc. Hein. On n'aime pas les touristes. Voilà, il y a quelque chose de pas très cool, quoi. Voilà.
Ce qu'il y a de commun, c'est le prolongement du Dauphiné, tout de même.
Oui.
Et culturellement, je pense qu'il y a quelque chose qui touche ici d'un lien et d'un sens commun sur le territoire du Dauphiné, qui n'est pas encore, alors Gap était une exception à la règle, n'est pas encore la culture de la vallée du Rhône ou du Sud-Est.
Oui.
On y est proche, mais on est entre l'atmosphère des montagnes et du Sud-Est.
On est entre les deux, oui, c'est vrai. On est entre la mer et la vraie montagne, enfin la montagne. Ouais.
Et donc au présent, tout ce passif, tu le réinvestis au contact des habitants et des habitantes.
Alors, quel passif? T'en
Celui
parlais de quoi déjà?
qu'on vient d'évoquer, tout ton parcours, il te permet
Oui.
aujourd'hui, que ce soit les expériences au contact des sœurs, au contact des différents groupes que tu as pu côtoyer, monter, de l'éducation spécialisée, du métier d'éducateur spécialisé.
Oui.
Aujourd'hui, tu te sens investi de réinjecter ce lien au contact. Tu ne l'as pas vraiment dit, mais tu es une base d'élèves qui avait un métier. Mais est-ce que tu peux nous préciser ce que tu fais désormais au présent autour du lac?
Alors, tu veux parler de l'école de musique? Alors, il faut quand même que je raconte un truc, c'est que j'ai vu un film un jour qui m'a mis une baffe. Alors pourtant, c'est pas un film primé à Cannes ou etc. C'est un film qui s'appelle Rock Academy, qui est avec Joe Black, un acteur américain assez connu, hein, bien portant là, qui est un grand guitariste aussi. Et c'est un film un peu rigolo, hein. C'est un vieux rocker raté qui est hébergé chez un couple d'amis qui sont ses meilleurs amis. Et puis un jour, son meilleur ami, lui, il est prof dans une école privée. Il y a toute une histoire où, en fait, du coup, Joe Black, qui fait du rock, tout ça, il va se retrouver dans sa classe, à sa place de lui, à la place. Et en fait, il va mener la classe. Et en fait, lui, là, ça ne l'intéresse pas du tout de faire la matière pour laquelle il remplace, mais lui, il va faire du rock. Donc en fait, il apprend aux écoliers qui sont jeunes. Et ils montent un groupe, et à la fin du film, ils font un tremplin, ils gagnent ce tremplin. Et c'est super loufoque, mais en même temps, c'est très réalisable, en fin de compte. Et en plus, ça se fait en cachette de tout le reste de l'école. Hein. Il faut savoir qu'ils se cachent dès qu'il y a la directrice qui arrive, ils rangent tous les instruments. et il leur fait faire vraiment du gros hard, quoi. Hein. Gros hard rock. Et quand j'ai vu ce film, je me suis dit, oh, mon Dieu, mais c'est ça que je veux faire. Je veux avoir une classe et monter et faire du rock avec une classe. Et d'où l'idée après, Blue Music School, voilà, c'est venu avec bleu, bon, c'est le lac bleu. Et je voulais faire cette philosophie. Alors, pas exactement ça, mais. Et puis, du coup, c'est ce que c'est devenu maintenant, c'est-à-dire quelque chose de. Tout est mis en comme dans un peu dans une toile d'araignée, c'est-à-dire que un élève il va arriver, je dis n'importe quoi, il va vouloir faire de la guitare, on va prendre une chanson. J'ai un autre élève qui va faire, qui vient, qui va prendre la basse, on va faire cette même chanson, batteur aussi, et hop, clac. Après on met en commun et ils se mettent tout de suite en situation sous la forme d'atelier qui dure 2 heures le soir généralement. Et en fait, moi comme j'ai appris la musique en fait quand on la fait en groupe, on démultiplie après les mises en danger. Parce que c'est dur de jouer avec quelqu'un, c'est dur de jouer avec des instruments différents. Et c'est comme jouer d'un second instrument presque. Et puis en plus, ça fait que les gens, ils se rendent compte. Donc voilà. Et puis après, maintenant, alors encore plus facilement, parce qu'il commence à y avoir un peu de l'expérience de cette école, on arrive à trouver des endroits assez facilement pour produire. Et c'est original, du coup, les gens, ils voient des élèves qui se produisent et il y a une. C'est très convivial, quoi. Il y a beaucoup les familles des élèves qui viennent et tout ça. Voilà, ça y est.
Et bien voilà, transition toute trouvée pour aborder ce qui va suivre le présent, c'est-à-dire l'avenir ou les projets. Donc on va se marquer une petite pause et poursuivre avec cette thématique.
Ok, merci.
Et c'est reparti avec Jérémy Rambeau en oui. Différé depuis Radio Pays Voironnais, depuis la médiathèque de Charmines. Alors on évoquait avant la pause tout ce qui était lié au passé, au présent, à l'avenir, l'avenir prochain, il est près du bistrot du pain et d'une partie. Alors dis-nous tout, quelles sont tes envies si on devait sortir la boule de cristal aujourd'hui, les projets, les choses qui te tiennent à cœur de réaliser pour la suite?
C'est très compliqué ça. C'est une question très compliquée.
Tu as 15 minutes.
Waouh! Ça va être très compliqué pendant 15 minutes. Je ne sais pas trop, parce que tel que professionnellement aujourd'hui, comment l'école est implantée, voilà comment ma vie est rythmée à travers tous les cours et tous les événements, etc. Je ne sais pas quelle sera la prochaine mise en danger, parce qu'il faut une mise en danger. Donc, en fait, le futur, moi, déjà, il va commencer là, le 22 juin, parce qu'on joue au Rossly, et que c'est déjà beaucoup de stress d'organisation, de savoir enfin de plein de choses, quoi. Voilà, que ce soit communication, organisation, artistiquement. Donc il y a cette date-là, donc 22 juin, ce sera la fête de la musique au restaurant Le Rosly à Chéravines. C'est la toute première fois qu'on joue là-bas. Eux, ils font pas souvent des concerts, donc voilà, on sait pas trop où on va, on ne sait pas comment on va être accueilli, ça sera un peu la surprise, hein. On a l'habitude, en fait, on a joué plusieurs fois au Bistrot du Pain, et en fait, quand on connaît, c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de mise en danger. On sait comment on va être accueilli, on sait qui nous accueille, on sait qu'il n'y a pas de problème. Donc finalement, mais là, on ne sait pas. Le kiosque, je ne l'ai jamais fait non plus. Donc là, il y aura le kiosque, ce sera le 17 juillet, dans le cadre des soirées de Les Lucioles, sous le kiosque de Chéravines, à 17h, 17h à 20h. On va faire une animation musicale. Là, c'est pareil. Jamais expérimenté le kiosque dans la formule Blue Music School, sachant que voilà, sachant que c'est un lieu grand, il faut qu'on fasse qu'il y ait du volume sonore, donc.
Oui, ce qu'il faut indiquer quand même, ce qu'il y a de commun et différent pour le coup par rapport au Bistrot du Pain, c'est qu'on est sur des lieux ouverts. Donc la musique, tu disais tout à l'heure, la rue, elle s'envole, elle s'évade, c'est vrai qu'elle est libre.
Oui.
La configuration du kiosque, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, on est à 2 pas du lac de Paladru ou de
Oui.
Charavine, selon comment on fait le choix de l'appeler, sur une configuration totalement ouverte à 360 degrés.
Exact. Ouais. C'est ça. Et du coup, bah, il va y avoir de l'organisation beaucoup plus importante au niveau matériel. Il faut monter une sono, il faut sonoriser une batterie, il faut y avoir des câbles de partout. Et puis,
Pas
mais
se prendre
voilà,
les pieds dedans.
ça va être un joyeux bordel.
Est-ce que la question elle se pose déjà d'un programme d'identifier des morceaux sur lesquels se positionner, d'une tenue, comment les choses se préparent?
Non, les tenues, non. Après, les chansons, oui, ça c'est déjà. Parce qu'on a un groupe aussi là qui s'appelle, c'est des petits, hein, enfin des petits. CM1, CM2, 6e. Et en fait, ils s'appellent les Serpents de la Mort. Et ils vont jouer au Rosly 2 voire 3 chansons. C'est super violent ce qu'ils font. Hein. Enfin, c'est
Métal.
moi qui choisis les chansons en même temps. Mais voilà, c'est quelque chose, ça envoie du lourd. Avec tout le côté brut d'un enfant. Hein. C'est absolument génial.
Tu peux nous en dire un peu plus, parce que là, c'est un peu abstrait pour moi.
C'est-à-dire.
Au niveau de l'esthétique, au niveau, quand tu dis c'est brut pour un enfant, c'est qu'est-ce que tu mets derrière ces mots?
Alors, je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure autour de l'art brut. Un jour, j'avais visité un musée en Suisse, le musée de l'art brut. Et il y avait des trucs absolument fascinants. Il y avait, par exemple, une robe de mariée qu'une dame atteinte d'une maladie mentale avait cousue toute sa vie, fil par fil. Et à la fin, ça fait une espèce de grosse robe de mariée. Enfin voilà, tout ça pour dire, l'art brut, c'est quelque chose qui sort vraiment, c'est une essence. Voilà, c'est l'âme qui parle. Et les enfants, en fait, ils sont pas encore changés, on va dire, par la société. Moi, j'ai du mal à trouver un mot, ça commence à devenir long.
Donc, derrière
En
ça.
fait, ils donnent tout ce qu'ils ont, quoi. Ils n'ont pas peur, ils n'ont pas forcément le trac. En fait, ils sont là, ils jouent l'instant. En fait, ils sont dans l'instant. Un enfant est dans l'instant. Ils pensent pas forcément à ce qu'il va faire dans 2 jours. Je parle d'un enfant sécurisé, quoi. Mais voilà, quoi.
Et donc là, l'idée, c'est d'y aller sans se poser de questions, et c'est un plaisir.
Oui, mais tout en. Voilà. Il y a tout le travail avant quand même qui est hyper important. Hein. Il y a une structure de morceaux, c'est répété je sais pas combien de fois, chacun en individuel, en groupe de trois, tout le groupe. Et en fait, c'est ça qui fait sécurité. Ce qui fait sécurité, c'est la trame, c'est la structure. Et ça, c'est un petit peu la thématique de la chanson. C'est ce qui va faire sécurité quand on joue une chanson, c'est qu'on va avoir quelque chose à respecter. Et après, autour de ça, eh ben, on peut se lâcher, quoi.
Alors, est-ce qu'on peut se permettre un petit peu d'ouvrir la discussion? Est-ce que du coup, tu dirais que pour toi, la pratique de la musique, c'est un outil qui permet d'être sur ces structures, ce cadre, et parce qu'il y a cette structure, ce cadre, ça permet de s'en libérer? Autrement dit, s'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de structure, on ne peut pas se libérer?
Oui, bah pour moi, c'est à l'image. De toute façon, quand on veut voir ce qui se passe chez les adultes, il faut voir ce qui se passe chez les enfants. Parce qu'on a tous été des enfants, on a tous évolué en adultes. Donc, des fois,
Et
on
au
peut voir
niveau.
en enfant, on peut très rapidement se dire, bah, je vois à peu près quel adulte il va être. Un enfant sécurisé, c'est un enfant qui peut s'épanouir, c'est un enfant qui peut se lâcher, sans, non, sans pour autant partir dans tous les sens, quoi. Voilà. Je sais plus pourquoi.
Le cadre et la liberté, la part de liberté.
Il faut un minimum de cadre pour pouvoir accéder à la liberté, je pense. En fait, c'est même. En fait, c'est la théorie de si tu veux contester un système, il faut en faire partie.
Dedans.
Sinon, tu peux. Il faut te mettre dans un moule pour contester ton moule. Voilà.
Et dans ce fil qu'on décrit là, est-ce que toi c'est quelque chose que tu essaies de transmettre aussi en termes de d'idée de la musique? Tu as dit que c'est un véhicule au-delà du fait de jouer de la musique, c'est jouer avec aussi.
Oui.
C'est un outil la musique pour toi pour libérer ces choses-là ou de les révéler?
Alors, il y a plusieurs manières de faire de la musique. Alors, pour les élèves, par exemple, qui en cours, il y a les élèves quand ils vont se retrouver chez eux, ils ne vont pas jouer de la musique de la même manière. Il y a les élèves quand ils vont se retrouver, par exemple, en soirée et qui vont sortir les guitares et qui vont jouer. Tout ça, c'est la situation va faire l'état d'esprit du moment, quoi. Moi, si moi je prends la guitare chez moi et que je commence à jouer de la musique, il y a des moments où je vais être sur quelque chose de très plat, voilà, très technique. Et puis il y a des moments où je vais partir en vrille totale, hein, et je vais rouvrir les yeux après avoir chanté et joué la chanson. Et je me fais moi-même, ouh, il s'est passé quoi là? Parce que. Moi, je crois un petit peu qu'il y a des choses qu'on ne voit pas qui existent. Voilà, il ne faut pas se fier à que ce qu'on voit, que ce qu'on touche, les atomes, etc. Il y a d'autres choses qu'on ne voit pas. Et que les animaux voient, que les enfants avant l'âge de 7 ans voient, avant l'âge de raison. Et je sais plus pourquoi. Et en fait, il y a des groupes, moi, qui vont m'envoyer, mais en l'air, quoi. Radiohead, par exemple, c'est un groupe qui me fait voyager.
C'est vrai qu'il y a tout un courant aussi du rock, alors, par les années 60-70, qui avait émergé à cette période, le rock psychédélique et toutes ces approches des Frank Zappa, des Pink Floyd et autres, qui ont apporté beaucoup d'espace de liberté et d'anticloisonnement tout en respectant, pour le coup, des cadres établis, des structures établies au niveau musical.
Oui. Oui, des fois on a tendance à se dire, oh, les Pink Floyd, ou alors c'était un peu le mythe, les Pink Floyd, ils doivent vraiment prendre des trucs de dingue pour arriver à faire de la musique pareille. En fait, il n'y a pas plus sérieux que les Pink Floyd. Les Doors, ils s'appellent les Doors, c'est les portes de la perception. Bon, eux, par contre, ils prenaient beaucoup de trucs, enfin, surtout Jim
Morrison,
Morrison,
ouais.
mais derrière l'orchestre, il était en place, quoi. Basse, batterie, il n'y a pas de basse. Guitare,
C'est Fender qui joue le rôle de l'orgue.
C'est l'orgue qui joue le rôle de la basse, ouais. Qui permettait en fait à Jim Morrison de partir en live. Vous savez, il y a très souvent, il y a un peu des archétypes comme ça de caractère en fonction des instruments. Les bassistes, c'est des gens qui sont hyper carrés, très souvent, qui sont beaucoup dans le contrôle et qui généralement tiennent le groupe. Voilà, qui sont sur l'organisation, qui sont sur. On va ranger le matos dans un camion, bah, c'est eux qui vont avoir la solution pendant que le chanteur est au bar.
Et
Le
guitariste et
chanteur
monte.
et le batteur, et généralement il va y avoir le guitariste avec le bassiste qui. Enfin, moi j'ai vécu vraiment ça souvent dans les groupes. J'ai eu beaucoup de groupes, je sais pas, j'en ai eu 7-8 différents. Mais on retrouvait toujours ces archétypes-là, quoi. Et moi j'étais le chanteur, j'étais souvent au bar. Et je rangeais très, très rarement le matériel.
Et je crois que dans un avenir proche, le bar t'attend, par ailleurs.
Ah, en plus.
Très bien, bah écoute, je te remercie en tout cas pour ce temps qui a été très décousu. On a fait le choix d'alterner des moments au passé, au présent, à l'avenir de manière assez spontanée. On s'est permis aussi un luxe de t'écouter, d'avoir une session et de vous écouter. C'était un vrai plaisir de partager ça avec vous. Il n'y a plus qu'à du coup franchir le pas et venir vous écouter au Rosly ou au kiosque très
C'est
prochainement.
ça. Et puis bah, du coup, je remercie tous les élèves de la Blue School, ceux qui sont là présents évidemment, mais aussi tous les autres parce que c'est les élèves qui font l'école, quoi. Voilà. Moi, je pose le cadre.
Merci Jérémy Rambeau, et puis à tout bientôt.
Merci, au revoir.